Antique, 5 juin 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du
mal. Gloire à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire,
priez pour nous.
Saint-Jean,
priez pour nous.
N'y a-t-il pas une éthique humaine, n'y a-t-il pas en éthique humaine une vertu d'obéissance à l'égard de l'autorité compétente dans la coopération et dans la ligne de la cause efficiente? Oui, sûrement, mais ça n'a pas un rôle très important. Et alors ce sera surtout en politique qu'on le verra. Vous voyez, c'est le complément de l'éthique personnelle et de l'éthique politique, c'est pour ça que je ne l'ai pas traité. Ce sera la famille et ce sera le travail. Mais en fait, c'est tout de suite au niveau communautaire. Du reste, c'est souligné, c'est dans la coopération et dans la ligne de la cause efficiente. C'est dans la ligne du travail. C'est le lien entre le maître et l'esclave, pour Aristote, où il y a une certaine obéissance. Mais alors, c'est vraiment du côté de l'éthique politique, tandis que ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'éthique chrétienne, que c'est quelque chose de tout à fait personnel. C'est ça que je voulais montrer. Dans l'éthique religieuse, je veux dire. La vertu d'humilité n'est-elle pas un écho de la vertu de justice en éthique religieuse? Oui, d'une certaine manière. La vertu d'humilité est située dans le fait que on reconnaît qu'il y a dans l'autre quelque chose qui nous dépasse, et on reconnaît ses limites. Alors, c'est bien relié d'une certaine manière, vous voyez, à l'adoration, c'est bien relié à la vertu de justice, qui reconnaît les droits de l'autre. Alors, à ce point de vue-là, on peut le dire, c'est un écho. D'une certaine manière, il y a quelque chose de particulier où l'amour de la personne est peut-être mis en plus grande lumière que dans le point de vue de la justice. Comment doit-on comprendre que l'intelligence est au service de l'amour si l'adoration s'achève dans la contemplation? Oui, alors ça c'est le point de vue dernier qu'on avait vu. Comment l'intelligence est au service de l'amour dans l'adoration. Il y a un amour fondamental à l'égard de celui qui est notre source, celui qui est le Créateur. Et c'est cet amour fondamental qui est accepté, reconnu, et qui fait que on s'offre à celui qui est notre source, notre créateur. C'est l'amour qui enveloppe l'adoration. L'adoration est un acte d'amour. C'est un acte d'amour à l'égard de celui qui nous dépasse complètement et qui est avant nous. Alors, l'intelligence est au service de cet amour, puisque de fait, on a découvert l'existence de cet être premier et on a reconnu l'existence de cet être premier et de ce créateur. Donc l'intelligence est au service de cet amour particulier qui consiste à s'effacer devant son créateur, à reconnaître qu'il est premier, qu'il est avant nous et que nous dépendons totalement de lui. Donc cet amour qui nous relie au créateur et qui s'exprime dans cet acte d'adoration va en même temps devenir un nouveau point de départ pour la contemplation. Puisque cet être qui est source de tout notre être, de tout nous-mêmes et de notre esprit, nous voulons le connaître autant que nous pouvons. Alors à ce moment-là, l'amour va nous pousser à la contemplation. Mais autrement dit, je crois qu'on pourrait dire que les relations entre l'amour et l'intelligence ont des moments différents. Je crois que lorsqu'il s'agit de l'adoration, c'est vraiment l'intelligence au service de l'amour. L'intelligence par laquelle on a découvert le Créateur, par laquelle on a posé Dieu Créateur, il y a une réponse d'amour qui va plus loin et qui aboutit dans l'adoration, la manière de rejoindre Dieu. Alors là, on peut dire que l'intelligence est au service de l'amour. Que l'amour va passer devant et va aller plus loin. Mais en même temps, cet amour qui se traduit en adoration, cet amour va pousser l'intelligence dans une nouvelle dimension vis-à-vis du Créateur qui sera un aspect de contemplation. Mais je ne dirais pas que dans la contemplation, c'est l'intelligence qui passe avant l'amour. Non. C'est une intelligence poussée par l'amour, portée par l'amour, pour aller le plus loin possible qu'elle peut aller. Et donc, c'est vraiment ce mouvement de l'amour qui va porter l'intelligence pour que cette intelligence, j'allais dire, va pénétrer le plus loin possible dans le mystère du Créateur. Il y a un double mouvement. C'est du reste constamment comme ça. Hein. Nous distinguons intelligence et amour, mais comprenons bien que nous sommes dans l'ordre spirituel. Donc il n'y a pas de séparation entre l'intelligence et l'amour. Il n'y a pas de cloisonnement. Il y a une distinction réelle, mais c'est une compénétration qui se fait dans l'intelligence et l'amour. En Dieu, amour et intelligence sont un substantiellement. En nous, ils sont distincts comme deux puissances, comme deux facultés, mais ils ne sont pas séparés. De sorte que chaque fois que mon esprit s'actue par le point de vue de l'amour, l'intelligence elle-même va pouvoir s'approcher davantage de ce qu'elle désire considérer. Et chaque fois que l'intelligence s'approche davantage de ce qu'elle désire considérer comme son bien, l'amour va pouvoir pénétrer davantage. Et nous avons instinctivement, c'est pas impossible autrement, nous projetons un peu sur la distinction de l'intelligence et de la volonté, les distinctions que nous faisons dans l'ordre sensible entre les passions et puis la connaissance sensible. La connaissance sensible et les passions sont vraiment séparées, pas seulement distinctes. Il y a des organes différents point de vue de notre vie, c'est autre chose d'être passionné, autre chose des sensations. Tandis que quand il s'agit d'intelligence et de la volonté, nous sommes dans un ordre spirituel. Il n'y a plus d'organes biologiques, corporels. Donc il y a une compénétration. Intelligence et volonté sont compénétrés l'un dans l'autre. C'est pour ça que chaque fois, quand il s'agit de la même réalité, il s'agit du Créateur, il s'agit du Dieu Créateur, à la fois qu'on veut connaître et qu'on veut aimer. Alors on pourrait dire, voyez, que la contemplation est avant tout une œuvre de l'intelligence, de la sagesse. La sagesse acquise. Et l'adoration est avant tout une œuvre d'amour. Mais intelligence et amour se compénètrent dans ce point de vue d'adoration Et ce point de vue de contemplation. Il y a une compénétration entre les deux. Comme du reste dans toutes nos activités humaines pratiques. Toutes nos activités humaines pratiques impliquent intelligence et volonté. Hein. Mais dans toutes nos activités humaines, la compénétration est plus ou moins forte et elle est à son maximum dans le point de vue de l'adoration et de la contemplation. Mais nous distinguons quand même les deux. Et nous disons que la contemplation est œuvre de sagesse, c'est-à-dire œuvre d'intelligence, mais sous la mouvance de l'amour. Et nous disons que l'adoration est œuvre d'amour sous le point de vue de l'intelligence. J'adore celui que je considère comme mon créateur. Et plus j'aurai connaissance de mon créateur, plus mon adoration sera lucide, limpide et vraie. Voyez, en éthique chrétienne, quand je parlerai de l'adoration en esprit et en vérité, là je le vois bien, en esprit et en vérité, esprit amour, vérité, lumière. Et les deux sont liés. Et le progrès des deux implique les deux. Et quand j'essaie d'étudier adoration et amour en éthique religieuse, je vois que l'adoration, elle est fondamentale, c'est cette relation nouvelle d'amour qui existe avec Dieu créateur. Il y a une relation nouvelle d'amour, une relation qui me relie au Dieu créateur, par où je reconnais ma totale dépendance vis-à-vis du créateur, et que je reconnais cette dépendance et je l'aime. C'est une relation de dépendance totalement acceptée. Sachant que c'est cette relation de dépendance totalement acceptée qui me libère de tout le reste. L'adoration me libère. Pourquoi ? Parce qu'elle permet à mon intelligence d'aller jusqu'au bout. C'est toujours l'intelligence qui libère. Hein. La vérité me libérera. C'est l'intelligence qui me donne l'autonomie. Ce n'est pas l'amour. Alors ce qui est très curieux dans cet acte d'adoration, je suis en dépendance vis-à-vis du Créateur et je suis libéré grâce à l'intelligence, à l'égard de tout le reste. Vous voyez bien les deux aspects, intelligence et amour, qui sont intimement liés dans l'adoration. Et qui font que progressivement, j'acquiers par là la vertu de religion. La vertu de religion s'acquiert progressivement par ces actes d'adoration. Et l'intelligence mise au service de également l'amour va pousser l'intelligence à aller jusqu'au le plus loin possible dans sa considération vis-à-vis du Dieu créateur pour le contempler. Et c'est par là que je vais acquérir, par ces actes de sagesse, l'habitude de sagesse. Par ces actes de contemplation, l'habitude de sagesse. Par les actes de contemplation, j'acquiers la sagesse. Par les actes d'adoration, j'acquiers la religion, la vertu de religion. L'acquisition des deux. Se fait progressivement. Donc c'est vraiment l'acte d'adoration et l'acte de contemplation qui sont les deux pôles de l'éthique religieuse. L'éthique religieuse est vraiment fondée dans l'adoration et le sommet, c'est la contemplation. C'est là où je saisis ce qui a de tout à fait particulier cette éthique religieuse. Alors, on m'a posé deux questions. Pour l'éthique religieuse, hein, on arrive au terme un peu de cette réflexion. On m'a posé la question à la fois de la prudence et l'autre question, c'était ce que j'avais essayé de voir avec vous, le point de vue, puisque cette contemplation se fait à partir de l'effet, ce qui est l'effet le plus parfait. Alors, les rapports entre contemplation et amitié. Je vais essayer de répondre aux deux, au moins essayer d'orienter un peu deux aspects. J'ai dit tout à l'heure, les deux extrêmes de l'éthique religieuse, c'est l'adoration et la contemplation. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux extrêmes ? Il y a la prudence. C'est évident, là, sagesse, adoration. Quand on adore, est-ce que l'adoration relève de la sagesse ou de la prudence ? tous nos actes d'éthique humaine relèvent de la prudence. Bien évidemment. La prudence est toujours présente dans toutes nos activités. On pourrait dire éthique humaine, hein, avec ce caractère particulier que la prudence est au service de la finalité, et la finalité, c'est l'amitié. Je ne dis pas que la nouvelle finalité, c'est l'adoration. L'adoration, au sens strict, ne finalise pas mon éthique religieuse. Qu'est-ce qui finalise mon éthique religieuse? C'est la contemplation. Ça, c'est sûr. J'adore pour contempler. Je ne dis pas je contemple pour adorer. J'adore pour contempler. C'est plus noble la contemplation, c'est plus grand la contemplation, et ça honore plus Dieu la contemplation que l'adoration. Mais pour vraiment contempler religieusement, je dois adorer. Et l'adoration est toujours présente dans ma contemplation. Je ne peux pas séparer en disant j'ai assez adoré maintenant. Pas 10 minutes d'adoration après la contemplation. Et j'aime mieux la contemplation, moi je suis plus contemplatif, j'aime mieux la contemplation que l'adoration. Alors je laisse les autres continuer de se prosterner, et moi je contemple. Et je contemple intellectuellement ce développement de l'intelligence. Non, on ne peut pas, les deux sont intimement liés et inséparables. Alors la question qui se pose, vous voyez, est-ce que l'adoration relève de la prudence? Autrement dit, la prudence vertuative en éthique humaine, que va-t-elle devenir en éthique religieuse? Est-ce qu'elle est modifiée ou est-ce qu'elle n'est pas modifiée? Intéressant de voir ça. Je peux dire tout de suite, hein, nous avions vu ce que c'était que la prudence. La prudence, c'est d'ordonner les moyens à la fin. C'est le propre de la prudence, c'est ordonner les moyens. S'il y a une nouvelle finalité, il y a nécessairement un nouvel ordre de prudence. Or, ici, il y a une nouvelle finalité, c'est la contemplation. Ça, je peux le dire tout de suite. Donc, s'il y a une nouvelle finalité, la prudence est modifiée foncièrement dans l'ordre des moyens vis-à-vis de la fin. La prudence en éthique humaine ordonne tout à l'amitié. La prudence en éthique religieuse ordonne tout à la contemplation, sans négliger l'amitié. Parce qu'elle reconnaît que cette finalité, nous allons revenir dans un instant, cette finalité demeure. La contemplation ne supprime pas l'amitié, mais elle relativise l'amitié. Ça, relativise l'amitié, puisque l'amitié n'est plus la fin dernière. Elle est la fin propre, et la fin dernière, c'est la contemplation. La fin ultime, c'est la contemplation. C'est la contemplation qui est quand même ce qui achève tout, ce qui est dernier. C'est la contemplation qui est donc la fin ultime, dernière. Alors, la prudence, comment va-t-elle jouer? Puisqu'il s'agit d'ordonner tout à une nouvelle finalité. Je peux dire qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît comme exercice de la prudence dès qu'il y a adoration. L'adoration me met en présence d'un nouvel amour. Un amour à l'égard du Dieu créateur. Un amour spirituel, personnel, à l'égard du Dieu créateur. Nous avions vu que la prudence ne regardait pas le premier amour. Vous savez bien à propos de l'amitié. La prudence jouait un rôle particulier pour savoir si j'accepte ou n'accepte pas cet amour. Donc on peut dire qu'ici, la prudence va prendre une nouvelle dimension. Là, je crois qu'il faut tout de suite souligner. La prudence va prendre une nouvelle dimension dès qu'il y a ce premier amour à l'égard du Dieu créateur. En reconnaissant la grandeur de cet amour et en l'acceptant pleinement. Puisque c'est en acceptant pleinement cet amour à l'égard du Dieu créateur que je peux adorer librement. Donc là, la prudence intervient. J'allais dire que la prudence intervient pour reconnaître que accepter cette dépendance d'amour à l'égard du Dieu créateur, c'est ce qu'il y a de plus grand en moi, dans mon état de créature. La créature ne peut pas faire un geste plus grand que de reconnaître la dépendance à l'égard du Dieu créateur. Reconnaître amoureusement la dépendance à l'égard du Dieu créateur, eh bien c'est ce qu'il y a de plus prudent. C'est la plus grande des prudences, si vous voulez. Et là, vous voyez que la prudence prend à partir de là une nouvelle dimension fondamentale qu'elle n'a pas du tout en éthique humaine. Il y a une profondeur de la prudence qui commence par ce nouvel amour. C'est comme ça que je dois le commencer à le voir. Ce nouvel amour à l'égard du Dieu créateur met tout de suite dans ma prudence une nouvelle dimension pour que accepter cet acte d'amour fondamental pour reconnaître la grandeur de cet acte d'adoration qui consiste à me remettre entre les mains de Dieu, à reconnaître que je suis totalement dépendant de Dieu. Et donc me mettre dans cet état de docilité fondamentale, de remise totale de tout moi-même entre les mains de Dieu, en fait, à l'égard de la toute-puissance de Dieu. Donc là, la prudence prend une nouvelle dimension. La prudence va exercer ensuite un rôle nouveau aussi pour que je comprenne que cette adoration est ordonnée à la contemplation. C'est un moyen tout à fait particulier vis-à-vis de la contemplation, un moyen conjoint. Je crois qu'on peut dire que c'est un moyen conjoint, donc un moyen nécessaire. Pas de contemplation humaine à l'égard du Créateur sans l'adoration. Et ça, c'est le rôle de la prudence. C'est la prudence qui me fait comprendre ça. Parce que je pourrais me dire, mais séparons. La contemplation, elle est spéculative, elle n'a rien à voir avec l'adoration. Alors à ce moment-là, je laisserai l'adoration du côté pratique, puis je couperai. Eh bien, la prudence, au contraire, va développer ce lien de nécessité entre l'adoration et la contemplation. Et ceci, c'est bien de l'ordre prudentiel, puisque la sagesse s'acquiert à partir de la contemplation. Donc, antérieurement à la naissance de la sagesse, il y a un acte de prudence. Alors ça, ce serait très beau à développer, parce que je ne crois pas que ça a été développé, ce point de vue-là, de voir comment la prudence peut être dans son activité la plus grande et de permettre la naissance de la sagesse. Selon l'ordre génétique, la prudence est antérieure à la sagesse. Et donc, ce qu'il y a de plus grand dans l'acte prudentiel, c'est de permettre la naissance de la sagesse. Or, la prudence va permettre l'acte de la sagesse en montrant comment l'adoration est tout entière ordonnée à la contemplation. Et qu'elle est comme la disposition normale à la contemplation. Pour pouvoir contempler, il faut adorer. Si je n'adore pas, je ne contemplerai jamais. Alors là, c'est vraiment l'acte très très grand de la prudence, voyez, qui montre l'orientation de l'adoration vers la contemplation, qui empêche la cérébralisation d'une métaphysique qui ne serait plus finalisée. Vous voyez, le gargarisme des notiones. J'aime de gargariser des transcendantaux. C'est un gargarisme assez particulier, mais c'est un gargarisme extraordinaire. Tu vois? Alors, celui qui a ça. Alors, à ce moment-là, voyez bien, la prudence empêche ça. Il y a toujours un danger. plus votre intelligence s'élève, plus il y a un danger qu'elle se finalise en elle-même. C'est ça, une cérébralisation. Elle perd contact avec le réel. Et la prudence est là pour montrer comment l'adoration est nécessaire à la contemplation philosophique, d'où va naître la sagesse. Et la sagesse naît à partir de là, parce que la sagesse n'est pas infuse, ma sagesse philosophique n'est pas infuse, elle est acquise. J'acquiers cette sagesse. Et pour l'acquérir, il faut mettre l'adoration, vous voyez, ordonnée à cette contemplation. Il y a là, je crois, l'acte principal de la prudence au niveau proprement éthique-religieux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Dans l'éthique humaine, vous voyez, on pourrait dire, si vous voulez, dans l'éthique proprement humaine, premier niveau d'éthique, ce qu'il y a de plus grand dans l'éthique à ce moment-là, ce qu'il y a de plus grand au niveau de la prudence dans l'éthique humaine, c'est de tout ordonner à l'amitié, au choix de l'ami. Parce que c'est vraiment le choix de l'ami qui va, le choix libre de l'ami, qui va nouer constamment le point de vue de l'amitié comme fin. Eh bien, ici, au niveau éthique religieuse, c'est de comprendre comment l'adoration demande cette ouverture, ce dépassement vers la contemplation. Le passage de l'adoration à la contemplation relève d'un acte de prudence, d'une prudence religieuse. Une prudence religieuse, mais dans quel sens ? Une prudence qui ordonne l'adoration à la contemplation. La prudence n'est pas religieuse au sens propre, mais la prudence joue à un niveau religieux. Très curieux. Et je crois qu'on doit le dire. Ça me semble impossible de ne pas le dire. Une fois que j'ai la contemplation, une fois que j'ai acquis la sagesse, vous comprenez qu'à partir de là, il y a un nouveau regard éthique. Un regard de sagesse. Alors, est-ce que ce regard de sagesse va supprimer la prudence ? Pas du tout. Parce que la sagesse contemplative, parce que la contemplation philosophique, cette contemplation fruit de la sagesse acquise, ne supprime pas mon conditionnement humain. Rien n'est changé dans mon conditionnement humain. C'est pas parce que j'acquiers la contemplation que mon conditionnement humain est changé. Donc, rien n'est changé dans la prudence. Et c'est pour ça que, de fait, le jugement de sagesse ne va pas supprimer le jugement prudentiel. La sagesse n'est jamais rivale de la prudence. Et la prudence n'est jamais rivale de la sagesse. La phronésie, c'est la sophia. Hein. Je crois que là, on voit bien les deux aspects. Parce que la sophia, la sagesse acquise, me donne un nouveau jugement sur tout, mais pas au point de vue pratique. Je ne peux pas être dirigé par ma contemplation au point de vue humain. Je ne peux que contempler. Mais je peux, grâce à la contemplation, avoir un nouveau regard de sagesse sur toutes les réalités. Mais ce n'est pas ma contemplation acquise, ma contemplation philosophique, qui va me diriger. C'est toujours ma prudence. C'est très très important de comprendre ça. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien, c'est assez subtil, parce que c'est des domaines qu'on ne regarde pas beaucoup, mais je crois que c'est très important de les regarder. Voir comment la prudence va avoir un champ d'action, je dirais. Un champ d'action nouveau au niveau éthique religieuse. Premièrement, je résume, je reprends, premièrement, reconnaître la grandeur de l'adoration. Un homme prudent qui a compris que Dieu existait reconnaît que l'adoration, c'est un geste capital, fondamentale, que l'homme n'a pas de stabilité sans l'adoration. Une stabilité foncière. Deuxièmement, il doit comprendre que cette adoration, c'est très bien, mais elle doit s'achever dans la contemplation. Tout un effort. Alors là, évidemment, l'homme prudent saura très bien que ce n'est pas donné à tout le monde la contemplation philosophique, la contemplation acquise. Et ça fera partie de sa prudence. Alors ça, c'est très très curieux de voir. Et c'est très vrai, c'est, parce que pour qu'il y ait vraiment contemplation philosophique, vous comprenez, c'est toute la métaphysique, c'est toute la philosophie première qui est utilisée par la prudence pour qu'il y ait contemplation. Alors, si je n'ai pas de philosophie première, si je ne sais pas du tout ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? En homme prudent, je me dis, moi, je ne peux qu'adorer. Mais je ne tomberai pas à cause de ça dans une dévotion purement rituelle, vous voyez. Donc je ne peux qu'adorer et mettre des petits cierges à Saint-Antoine. Ben, c'est pas, pas faire autre chose. Faut pas faire autre chose. Je peux faire uniquement des cérémonies. Non. D'abord, ça, ce serait quelque chose d'un peu extrinsèque. Mais je prendrai les cérémonies liturgiques, parce qu'il y a une liturgie au niveau religieux. Alors, je dirais, moi, pour que l'autre ne peut pas dépasser l'adoration qui conduit à la liturgie, j'aurais uniquement ça. Non, je crois que la prudence va toujours essayer de maintenir un regard vers la contemplation. On ne va pas arrêter. La prudence n'est jamais un été noir. Sauf quand elle est la prudence, vous savez bien, du vieux normand. Alors à ce moment-là, elle risque d'être un été noir, en disant, n'allons pas plus loin. Vous voyez, n'allons pas plus loin. Mais ça, c'est quelque chose qui arrête. La prudence reste ouverte en comprenant que la finalité propre de l'être religieux, c'est la contemplation. Mais pour pouvoir y arriver, il faut des quantités de choses. Alors je crois qu'on pourrait mettre, si vous voulez, si on était attentif, on pourrait dire la prudence dans une éthique religieuse, reconnaître l'adoration. Deuxièmement, comprendre le développement de cette adoration dans une liturgie. Et le troisième moment, reconnaître que l'adoration doit mener à la contemplation. Ce seraient les trois moments de la prudence religieuse. Oui, alors la liturgie, au niveau, les fêtes liturgiques, hein, les fêtes liturgiques d'une liturgie qu'on dit païenne, mais enfin, qui est une fête liturgique quand même. Il y a une liturgie pour celui qui reconnaît que Dieu existe. Il y a une liturgie positive et négative. Il y a des rogations pour éviter les serpents de venir trop proches, n'est-ce pas, et de supplier pas être mordu par les serpents, n'est-ce pas. Alors ça, c'est la liturgie, n'est-ce pas, qui fait écarter ça pour se mettre du bon côté, n'est-ce pas, se mettre du bon côté. Et puis, la liturgie qui invoque, qui supplie, on voit très bien tout le mouvement liturgique. Il y a toujours deux aspects dans la liturgie. La liturgie qui veut avoir une protection et une liturgie, ça c'est négatif, contre tout ce qui pourrait être agressif et mauvais, et puis une liturgie positive, d'amour. Et puis alors, le troisième moment, la contemplation. Trois moments. Alors, regardons maintenant l'autre aspect. Le point de vue des rapports entre l'amitié et la contemplation. C'est les deux aspects par lesquels, de fait, on voit bien comment l'éthique humaine peut être assumée par l'éthique religieuse. Et c'est quand même très important, ça. Même pour comprendre, je crois, l'éthique, enfin, la théologie morale. Je crois que c'est très important de comprendre comment, comment par l'aspect religieux, il y a toute une nouvelle dimension qui assume l'éthique humaine. Découvrant que la contemplation est ma fin ultime, ma fin dernière, découvrant que le bonheur ne peut être parfait, comme dit Aretos, protos, peut-être en premier lieu, c'est la contemplation. L'amitié ne pourra jamais être un bonheur parfait. Parce que l'ami peut mourir. L'ami peut partir autre part. Et ainsi de suite. Donc l'amitié ne sera jamais un bien parfait. Et c'est la contemplation seule qui me donne le point de vue du bonheur plénier. Ayant découvert cela dans ma prudence, ce dépassement, cette contemplation qui me fait acquérir l'habitus de sagesse, me permet de porter un jugement nouveau sur l'homme. Un jugement de sagesse. L'homme concret. L'homme concret, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire aussi mon voisin. C'est-à-dire tous ceux que je vois. Et sur l'univers, sur le milieu dans lequel je suis, il y a un nouveau jugement. Je regarde l'homme comme une créature. Et comme une créature particulièrement parfaite, parce que justement, elle est en relation avec Dieu dans cette relation particulière de la contemplation. Je me pose la question à ce moment-là, dans cette lumière de sagesse, est-ce que l'amour d'amitié reste toujours une fin propre de l'homme, dans un jugement de sagesse? C'est normal, parce que je saisis l'homme comme une créature, je vais tout de suite me poser. Oui, c'est comme tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que la découverte de la sagesse supprime la prudence? Eh bien, j'avais dit non. La découverte de la sagesse ne supprime pas la prudence, parce que la découverte de la sagesse ne modifie pas mon conditionnement humain. Parce que l'acte de contemplation ne modifie pas mon conditionnement humain, et donc ma prudence demeure. Alors ici, je me pose la question, est-ce que la découverte de Dieu créateur, la contemplation du Dieu créateur, qui me donne un nouveau jugement de sagesse sur l'homme, sur donc l'homme, sur l'ami, va-t-il faire que, de fait, je dois dire que l'amour d'amitié n'est plus et n'est pas ma finalité propre? Est-ce que l'amitié va de fait ne plus être une finalité? Eh bien, je dis non. Une fin supérieure ne supprime pas une fin intermédiaire. Pourquoi? Parce que, ayant découvert Dieu comme créateur, je découvre mieux comment l'homme a une relation unique vis-à-vis de Dieu. Autrement dit, j'ai un jugement de sagesse sur l'homme en comprenant mieux comment la personne humaine a un certain absolu. Parce qu'elle est créée immédiatement par Dieu. Dans un jugement de sagesse, je peux le dire. Chaque individu est créé directement par Dieu. Donc, l'homme ami est découvert dans un nouvel absolu, dans une nouvelle autonomie, et loin de diminuer sa valeur propre, son bien, Je considère au contraire, d'une façon plus profonde, que la personne humaine, l'ami, a quelque chose d'unique, capable d'être mon bien. Non pas un bien absolu, mais un bien réel. Donc le jugement de sagesse va venir confirmer que la personne humaine, étant esprit, créé directement par Dieu, a quand même un certain absolu. Et cet absolu permet de considérer que l'amour d'amitié reste bien une fin intermédiaire. Donc, est capable de me finaliser. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire, cela. Le jugement de sagesse vient confirmer ce que j'avais découvert en éthique humaine, que l'amour d'amitié me finalise. Alors, je le découvre là dans un jugement de sagesse, donc avec un absolu plus grand, avec quelque chose qui me permet de mieux comprendre comment la relation de personne à personne dans l'amour d'amitié, donc cette relation prise pleinement et totalement, représente vraiment un certain absolu. L'absolu divin ne supprime pas, l'absolu du Créateur ne supprime pas l'absolu de la personne humaine. Au contraire, le confirme. Je crois que c'est la première considération qu'on doit faire. La seconde considération, est-ce que l'amour d'amitié peut aider la contemplation. La contemplation n'exclut pas l'amitié. Est-ce que l'amour d'amitié va aider la contemplation? Je crois que c'est les deux grandes questions pour essayer de comprendre les relations entre amour d'amitié et contemplation. Nous avions vu la dernière fois que contempler Dieu créateur, c'était le contempler par rapport nécessairement à moi-même, puisque je suis l'être le plus parfait que j'expérimente, moi ou mon voisin. Le plus parfait que j'expérimente, et donc à partir de là, je découvre sa simplicité. Je découvre que Dieu est absolument simple, alors que je suis complexe. Je découvre sa perfection, je découvre son infinité. Ça fait partie de ce mystère de contemplation. Per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. N'oubliez pas ça. Les trois aspects que Denis donne et que saint Thomas reprend, qui sont très beaux du reste, il faut toujours y revenir là-dessus. Comment mon regard intellectuel sur Dieu se fait toujours par mode de causalité, par mode de négation et par mode d'éminence. Alors je peux me poser la question, l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié, de l'ami comme mon bien, est-il un effet tout à fait particulier, tout à fait spécial, original, qui me permettra de mieux comprendre la manière d'exister du Créateur et donc de le contempler? Vous voyez la question. Quand je regarde l'ordre de l'univers, ça peut m'aider, la beauté de l'univers. J'ai dit la dernière fois, si vous vous souvenez, je n'ai pas pris, hein, c'est pour ça que je reviens dessus. La dernière fois, j'avais dit, cette contemplation de Dieu, je la fais à partir de moi comme homme, puis l'univers.
L'univers, c'est la beauté de l'univers, l'harmonie de l'univers. C'est le côté infini de l'univers.
Ça peut m'aider. Ce côté infini de l'univers, c'est évident que ça peut m'aider à découvrir ce que représente le point de vue de la beauté de Dieu, la contemplation de Dieu. Je vous ai donné cet exemple qui m'a toujours beaucoup frappé, parce que c'est ça, c'est quelquefois ces choses-là qui me frappent le plus. C'était pendant la guerre, petit bonhomme de 4 ans, sur son mur, qui regardait un magnifique coucher de soleil. Quand j'arrive par derrière, je lui dis, c'est beau. Et puis on regarde, Dieu est beau. Moi j'avais dit, c'est beau, Dieu est beau. C'est évident que la beauté de l'univers, la beauté d'un coucher de soleil, peut vous donner quelque chose qui vous fait découvrir la beauté de Dieu. Donc, c'est toujours l'homme et l'univers. Les anciens prenaient très fort. Aristote, lui, sa contemplation de Dieu est avant tout sur l'univers. Nous, nous devons insister plus sur le monde de l'homme. Et je dirais que c'est premièrement l'homme et la découverte de ce que je suis qui me permet de contempler Dieu. Et quand vous regardez la question de la simplicité de Dieu, vous voyez bien que c'est toute la composition de ce que je suis, toute la complexité de ce que je suis, qui me permet de découvrir la simplicité de Dieu. Je dois contempler la simplicité de Dieu quand même. Tous nous devons contempler la simplicité de Dieu. Nous devons tous, si nous avons un sens de l'adoration, nous devons tous comprendre qu'il faut découvrir cette contemplation de la simplicité de Dieu. Tant qu'on peut. Et ceci à partir de ce que nous sommes. Non pas de ce que nous sommes vu d'un point de vue psychologique, parce que la psychologie ne sert à rien dans ce domaine-là. La psychologie ne me permettra pas de contempler Dieu, mais par rapport à ce que je suis profondément dans mon être. C'est dans mon être, c'est dans la complexité de mon être que je peux découvrir la sainteté de Dieu. Perfection et ainsi de suite. Je me pose la question ici. Est-ce que je peux mettre la vie? Est-ce que la vie a un rôle privilégié? Alors j'avais trois métaxus, trois moyens termes, vous voyez, qui me permettraient de contempler davantage. Je dis